Beaucoup de gens disent avoir reçu une vision de l'au-delà, comme si une partie du voile avait été ôtée spécialement pour eux. Dans la plupart des cas, le phénomène qu'ils décrivent ne fait guère de doute. Ce qu'ils racontent leur est bel et bien arrivé. Ce n'est pas l'expérience proprement dite qui pose problème, mais l'interprétation qu'on peut en donner. Ce qu'ils ont vécu vient-il de Dieu, comme dans le cas cité dans les Écritures, ou est-ce l'œuvre des démons? Les deux possibilités doivent être envisagées. Dans le cas du prophète Ésaïe, la question ne se pose pas puisque le texte sacré dit clairement qu'il a reçu une vision de l'Éternel. Celle-ci est d'ailleurs pour lui une expérience terrifiante et inoubliable qui révolutionna sa vie. Je continue de lire dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Ésaïe 6, verset 5. Cette vision de la majesté, de la gloire et surtout de la sainteté de Dieu produit sur Ésaïe une profonde conviction de péché. Il prend conscience de sa véritable condition spirituelle en se voyant comme Dieu le voit. Alors, en toute logique, il se dit « Ça y est, mon gars, ton compte est bon !» S'il a effectivement vu la personne de Dieu, il est exact qu'il ne va pas vivre puisque, comme je l'ai déjà dit, Dieu a dit à Moïse « Nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Exode 33, verset 20. Mais Ésaïe a une vision. Il n'a pas réellement vu l'Éternel de ses yeux dans toute sa majesté. Il a seulement aperçu l'une de ses manifestations. Une situation semblable s'est produite avec un personnage que l'Écriture appelle l'ange de l'Éternel. Abraham lui a parlé en tête à tête, essayant de négocier le pardon des villes de Sodome et Gomorre. Plus tard, son petit-fils Jacob est lui aussi confronté à Dieu, mais dans un rêve. S'étant réveillé, il s'écrie alors, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta, « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Genèse 28, les versets 16 et 17. Trois fois dans sa vie, Jacob appelle l'Éternel « Le Dieu que redoutait mon père Isaac. » Genèse 31, verset 42, 53. Des siècles plus tard, avant que la royauté ne soit instaurée en Israël, Dieu nommait des juges pour diriger les tribus d'Israël. Un jour, un simple homme, nommé Gédéon, reçoit une étrange visite. Dans le livre des juges, on lit. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Assure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Juges 6, les versets 12 à 23. Tout porte à croire que l'ange de l'Éternel, c'est le Christ avant son incarnation. Et comme il est la seconde personne de la Trinité, il est également appelé l'Éternel. Mais ni Abraham, ni Gédéon, ni aucun prophète n'a vu Dieu tel qu'il est réellement. Ils ont seulement vu l'une de ses représentations humaines. C'est pour cela qu'ils n'étaient jamais en danger de mort pour avoir vu Dieu. Néanmoins, tous ceux qui, comme Ésaïe, se sont trouvés dans la présence de Dieu, furent terrifiés et fortement convaincus de leur péché. C'est aussi ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont réalisé qui est vraiment Jésus. Avant qu'ils ne deviennent apôtres, ils vivent de la pêche sur le lac de Galilée. Mais un jour, alors qu'ils reviennent bredouilles, Jésus vient à eux, et il remplit de poissons leur filet vide. Dans l'Évangile selon Luc, on lit. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, ses associés, de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Luc 5, les versets 8 à 10. Et puis, il y a Job, qui est un homme juste, à qui arrivent tous les malheurs possibles et inimaginables. En toute logique humaine, il se met alors à remettre en question la justice de Dieu. Des amis viennent pour le réconforter, pour lui dire qu'il doit se repentir de ses fautes secrètes. Job les regarde, à leur droit dans les yeux, et leur dit « Je suis juste ». Il a en partie raison, et il gagne le croisé de fer contre ses amis. Mais Job est orgueilleux, un propre juste. Finalement, quand il se trouve en présence de l'Éternel, qu'il lui parle du milieu d'une tempête. Il ne cherche plus à défendre son intégrité, mais s'abaisse et se prosterne plus bas que terre, disant « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, les versets 5 et 6. Tout comme Ésaïe, le prophète Ézéchiel reçoit une vision extraordinaire, et il finit de la décrire en disant « C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai le visage contre terre, et j'entendis quelqu'un me parler. » Ézéchiel 1, verset 28. Le prophète Daniel aussi a eu une vision tout à fait époustouflante. Il écrit « Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle, et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et, en attendant sa voix, je m'évanouis et je tombai la face contre terre. » Daniel 10, les versets 8 et 9. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean se retrouve en exil sur l'île de Patmos parce qu'il proclame un peu trop haut et un peu trop fort la parole de Dieu. C'est là qu'il a eu une vision dans laquelle Jésus apparaît sous forme humaine, mais avec une majesté étincelante. Devant ce spectacle, Jean écrit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Apocalypse 1, versets 17 et 18. À tous ces hommes, Dieu a révélé une partie de sa majesté, ce qui les a terrorisés. Mais chaque fois, Dieu les a rassurés. La réaction d'Ésaïe à la vision de la sainteté de Dieu est « Malheur à moi, parce qu'il se sait corrompu et donc sous le jugement du Dieu trois fois saint. » Quand il mentionne ses lèvres impures, il parle bien sûr de lui-même, mais aussi de tout un chacun, parce que les paroles reflètent les pensées qui se traduisent en attitude, en action et en omission. Ésaïe se sait coupable sur toute la ligne. Mais d'autre part, il se rend compte qu'à sa souillure personnelle s'ajoute celle qui contracte chaque jour au contact du peuple impur dont il fait partie et auquel il s'identifie. En fin de compte, la réaction du prophète Ésaïe, devant la vision qu'il reçoit, est tout à fait saine, car tout être humain a besoin de se rendre compte de son état de déchéance totale, de son impiété, de sa culpabilité, de sa petitesse devant le Créateur. C'est cette conviction qui me conduit à me repentir de mes fautes. Et c'est à la lumière des Écritures que je réalise mon véritable état spirituel devant Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean exprime quand, dans sa première épître, il écrit « Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et, parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » 1 Jean 1,7. Avant de devenir le grand apôtre Paul, Saul de Tarse est un religieux ignoble, un persécuteur et un assassin. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, sa vie est totalement chamboulée. Dans son épître aux Philippiens, il fait le commentaire suivant sur sa vie de propre juste. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Philippiens 3, verset 7. De lui-même, l'homme est absolument et totalement incapable de plaire à Dieu. Celui qui par ses pensées, paroles, par ses bonnes œuvres ou un rituel quelconque croit obtenir le moindre mérite devant Dieu, ne le connaît pas. Devant la vision de l'Éternel, Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Ésaïe 6, verset 5. Je continue le texte. Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Il m'en touche à la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe 6, verset 7. Sur l'autel des parfums qui se trouve dans le sanctuaire, le lieu saint du temple, le prêtre de service fait brûler de l'encens matin et soir. Exode 30, 1, versets 7 et 8. C'est un feu sacré, parce qu'il est interdit d'y apporter un élément étranger. Au jour des expiations appelé Yom Kippour, le grand prêtre prélève des charbons ardents de cet autel et les porte dans le lieu très saint qui se trouve de l'autre côté du voile. Lévitique 16, les versets 12 et 13. Dans sa vision, Ésaïe reconnaît et confesse son péché, ce qui est la démarche indispensable en vue d'obtenir le pardon. C'est aussi ce qui déclenche l'action du séraphin qui va prendre une braise et qui touche la bouche du prophète. Si les lèvres sont purifiées, le cœur l'est aussi, parce que selon les paroles de Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Par un acte symbolique, le péché et la culpabilité du prophète Ésaïe sont consumés. La seconde raison pour laquelle la bouche d'Ésaïe doit faire l'objet d'une purification particulière est qu'elle va devenir l'organe de la parole de Dieu qui va être confiée au prophète. Comme Ésaïe vit sous le régime de l'Ancienne Alliance, le charbon ardent de la vision représente la vertu expiatoire des sacrifices. Mais il est bien évident que ni le sang des animaux, ni l'encens qui brûle sur l'autel des parfums ne peut expier le moindre péché. Tous ces rites permettent seulement de couvrir les fautes et donc de gagner du temps, en quelque sorte, en attendant que le Christ, l'agneau de Dieu, donne sa vie sur la croix afin d'enlever le péché du monde. Jean 1, verset 29. Dans la vision, cette braise symbolise donc Jésus-Christ, car seul son sacrifice a le pouvoir d'effacer les péchés des hommes. Et il n'existe aucun autre moyen, acte 4, 12, d'obtenir le pardon de Dieu plein et entier pour ses fautes. Dans sa première épître, Jean écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » 1 Jean 1,9. Je continue le texte. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt. Envoie-moi. » Ésaïe 6, verset 8. La promptitude de la réponse d'Ésaïe tranche avec l'hésitation d'autres hommes de Dieu comme Moïse ou Jérémie quand ils sont appelés au ministère. Dieu demande un volontaire pour son service et sa question donne à Ésaïe l'occasion de répondre à cet appel solennel. Le pluriel de la question « Qui marchera pour nous ?» signifie que Dieu parle à la fois pour lui-même, pour les autres personnes de la Trinité, et au nom de la cour céleste dont les séraphins font partie. Un peu comme les conseillers d'un roi, bien que. Il va sans dire que Dieu n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Mais dans sa bienveillance, il choisit de faire participer ses créatures à ses projets. Quand il communique au prophète Daniel ce qu'il a l'intention de faire à l'égard du roi de Babylone, le texte utilise d'abord un pluriel et ensuite un singulier. Je lis ces passages. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Voici ce que cela signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre Monseigneur le roi. Daniel 4, les versets 14-21. Je continue le texte. Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas, et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Ésaïe 6, les versets 9 et 10. Ce décret d'endurcissement est l'aspect négatif du ministère d'Ésaïe. Il est cité partiellement ou totalement au moins 6 fois dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles et dans le livre des Actes en particulier. Matthieu 13, verset 14, Actes 28, 26. Israël est arrivé au point de non-retour et un rejet supplémentaire de la vérité confirmera finalement, pour le peuple choisi, l'inévitabilité du jugement. Ésaïe reçoit un bien étrange ordre de mission. Autrefois, l'Éternel appelait Israël « mon peuple », mais ici, il le désigne comme « ce peuple », une façon de se distancer de lui. L'état moral de la nation est tel qu'on sait d'avance que l'appel du prophète à revenir à l'Éternel sera rejeté, pire encore, qu'il aura pour effet d'endurcir encore davantage Israël. Le peuple ne peut pas se repentir parce qu'il ne le veut pas. Et c'est à la lumière de la prédiction d'Ésaïe que son endurcissement se révélera dans tout son aurore. Quand enfant, j'étais chez mes grands-parents en Alsace, et que pour une raison ou pour une autre, je devais aller dans la grange après la tombée de la nuit. J'emportais toujours une lampe de poche. Dès que j'entrais, il se passait 2 choses. Les rats, qui sont en train de festoyer sur des grains tombés à terre, dégarpissent à toute vitesse. Et les hirondelles qui ont élu domicile dans les poutres se mettent à voltiger et à chanter. La lumière fait fuir les uns et chanter les autres. Ce n'est pas la lampe de poche qui crée le comportement des rats ou des hirondelles. La lumière ne fait que révéler ce qu'ils sont. Quand Jésus était parmi nous, il était la lumière du monde. Jean 8, verset 12, 9, verset 5. En sa présence, certains s'enfuyaient, on se retournait contre lui, c'étaient les rats. Mais d'autres, les hirondelles, se réjouissaient et devinrent ses disciples. J'ai lu le récit véridique de cette mine de houille en Virginie, où il y a eu un coup de grisou qui a bloqué plusieurs mineurs sous terre. Quand l'équipe de secours réussit enfin à les joindre, on leur donne des lanternes. Mais c'est alors que l'un d'eux dit « Mais pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ?» Surpris, les autres étonnés le regardent et réalisent que dans l'explosion, il a perdu la vue. Il a fallu la lumière pour révéler qu'il était devenu aveugle. Seul un châtiment exemplaire peut purifier Israël et en faire ressortir la minorité fidèle, le petit reste. Dieu n'essaie évidemment pas de perdre le pécheur, mais celui qui refuse obstinément de courber l'échine devant lui s'endurcit toujours davantage et finit jugé. Et c'est par son châtiment qu'il glorifie le Dieu qu'il a refusé d'honorer. Telle a été l'histoire de Pharaon dans Exode 5, verset 14, comparé Romains 9, 17 à 22, Et telle est l'histoire d'Israël. Jean 12, 37 à 40, Actes 28, 25 à 27, Romains 11, 7 à 10. Je continue le texte. Je demandai alors, « Jusque à quand, Seigneur ?» Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, et qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. » Ésaïe 6, les versets 11 et 12. Bien qu'il soit appelé à être le représentant de la sainteté de Dieu au milieu d'Israël, Ésaïe éprouve de la compassion pour son peuple. Voilà pourquoi il demande « Mais combien de temps va durer cet endurcissement ?» La réponse de Dieu est dure à entendre, car il durera jusqu'à ce qu'il provoque. Plus d'un siècle et demi plus tard, la dévastation complète du pays de Juda et l'exil du peuple à Babylone. Je finis de lire le chapitre 6. S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe, ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Ésaïe 6, 13. Le jugement sera terrible, mais il en sort un reste fidèle purifié qui devient la semence d'un Israël renouvelé. En vertu des promesses divines, le peuple juif ne peut pas disparaître complètement. Dans un sens donc, il est indestructible, ce qui est attesté par l'histoire. Mais seuls les individus qui se soumettent à Dieu peuvent échapper au châtiment et faire partie du petit reste saint. La vision du prophète Ésaïe, reçue au début de son ministère, explique la sévérité des reproches qu'il adresse à son peuple et la foi inébranlable qu'il conserve en sa glorieuse destinée. Ésaïe sait que son travail, stérile dans le présent, est destiné à préparer ce résidu fidèle, ce petit reste qui deviendra l'Israël de Dieu. Pareillement, l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ partage les gens en deux groupes, car elle met en lumière ceux qui veulent croire et se soumettre à Dieu et les autres, ceux qui, à son égard, ont le cœur tendre et ceux qui sont endurcis, les brebis et les boucs. Matthieu 25, 32 et 33. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, « Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. » 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 15 et 16.